deuxième jour de visite pour la mission d'information du Forum des îles du Pacifique. Ses membres ont été reçus au gouvernement ce matin. Dans l'actualité politique, vous retrouverez dans ce journal la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Faire découvrir le patrimoine littéraire local et rendre la littérature plus accessible, c'est le but du Festival scolaire de littérature locale qui s'est ouvert ce matin. En métropole, un enfant de 5 ans entre la vie et la mort à Rennes, il est la victime collatérale d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Expliquez-nous, Monsieur le Président, une trentaine de personnalités interrogent le chef de l'État sur sa politique au Moyen-Orient dans une tribune publiée dans le journal du dimanche. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi comme tous les lundis du magazine des sports pour faire un point complet sur les résultats du week-end et de la matinée. Bonjour Michael Juneski.
Bonjour Jean-François.
Et parmi les derniers résultats du football avec ce matin la dernière rencontre de la 9e journée du championnat de Ligue 1 et le PSG qui domine l'OM.
Oui, Paris sur un nuage, l'OM qui sombre. Il n'y a pas eu de suspense dans ce classique. Victoire parisienne au Vélodrome, 3-0. Et avec ce succès, le PSG qui creuse l'écart en tête du championnat de France.
La Formule 1 avec une nouvelle victoire Ferrari ce matin.
Oui, Ferrari qui remporte une deuxième course d'affilée, mais qui manque de peu le doublé, comme au Texas. Carlos Sainz s'impose au Mexique devant Lando Norris, qui a dépassé en fin de course l'autre monoplace de la Scuderia de Charles Leclerc. Verstappen n'arrive que 6e. Et tout est donc encore possible dans la lutte pour la couronne mondiale à 4 courses de la fin de la saison.
On prendra donc connaissance des principaux résultats sport sur la planète, mais aussi en Nouvelle-Calédonie. Et nous parlerons à propos de l'actu sport sur le territoire de badminton.
Ouais, les championnats de la province sud en individuel ont marqué la reprise des compétitions ce week-end. La Ligue souhaite mettre en place de nouveaux rendez-vous d'ici la fin de l'année, également permettre aux jeunes pratiquants de participer à des tournois régionaux. Et tout cela malgré l'impact évidemment de la crise insurrectionnelle pour la discipline. Nous recevrons Johanna Kou, la présidente de la Ligue calédonienne de badminton.
Rendez-vous pour le magazine des sports du lundi dès la fin de ce journal. La mission d'information du Forum des îles du Pacifique poursuit sa visite sur le territoire. Jusqu'à demain, la délégation va rencontrer les responsables politiques du territoire et la société civile. Et ce matin, Nicolas Legrand, les entretiens ont débuté au gouvernement.
Oui, ils ont tout d'abord rencontré le président du gouvernement, Louis Mapou, avant de s'entretenir avec les membres du gouvernement. À la sortie, Louis Mapou, le président a rappelé qu'il était à l'origine de la mise en place de cette mission qui a demandé un important travail de calage entre l'État, la Nouvelle-Calédonie et le Forum des îles du Pacifique.
Nous avons pris beaucoup de temps pour essayer de bien l'organiser. La Nouvelle-Calédonie a besoin que la région comprenne bien les enjeux que nous vivons, puisque la situation de la Nouvelle-Calédonie est très observée, mais surtout lorsque des événements se passent en Nouvelle-Calédonie, ça éclabousse pratiquement toute la région. Ça peut porter atteinte à la cohésion interne de l'ensemble de la région pacifique. Donc, c'est en ce sens que ces deux premiers jours qu'il passe avec nous sont très positifs en tout cas. Voilà ce que je peux dire de cette mission qui les enchante apparemment et qui correspond bien à ce qu'on souhaitait. Ils sont très ouverts, ils n'ont pas a priori. Ils discutent volontiers de l'indépendance, ils discutent volontiers de maintien au sein de la République, j'ai envie de dire, ils sont dans le rôle qu'ils se sont donné.
Et au cours de cet entretien, chaque membre de la mission a évoqué l'histoire de son pays, tout en rappelant que leur rôle n'était pas de s'ingérer dans le processus de la Nouvelle-Calédonie, mais tout simplement de mieux appréhender les causes de l'insurrection du 13 mai, mais aussi les pistes évoquées pour résoudre cette situation très difficile dans laquelle est plongée la Nouvelle-Calédonie. Le Forum des îles du Pacifique est donc venu pour écouter les responsables politiques notamment.
Ce que l'ensemble des membres du gouvernement qui ont eu l'occasion d'échanger avec les premiers ministres ont dit, c'est que finalement, la Nouvelle-Calédonie est à un tournant dans son évolution et le système économique, social, politique qu'il a porté pendant les 40 dernières années a atteint certaines limites sur lesquelles il nous faut retravailler. Et on a eu l'occasion de leur dire que nous avons mis en œuvre le plan de sauvegarde, de refondation, de reconstruction qui est un élément du processus qui s'ouvre. Et bien sûr, nous attendons que les discussions sur l'avenir aussi s'ouvrent et on a évoqué avec eux l'arrivée prochaine des plus hautes autorités de l'État pour envisager ce que pourrait être la feuille de route.
Et après cet entretien à la présidence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à l'ancien CHT Gaston Bourret, la mission d'information du Forum des îles du Pacifique s'est rendue à la CPS, au programme de la matinée. Des entretiens avec la présidente de la province sud, Sonia Baquès, puis avec le président de la province des îles, Jacques Lallier, avant de déjeuner avec la jeunesse de Nouvelle-Calédonie.
Et ils doivent également s'entretenir avec le monde économique. Cette mission des membres du FIP a eu des entretiens dès hier, notamment en fin de journée avec la présidente du Congrès, Velma Falayo, Une rencontre enrichissante et franche, estime-t-elle, qui a permis d'échanger sur ce qui s'est passé depuis le 13 mai. Et Velma Falareo en retient un encouragement pour une voie de dialogue et de réconciliation.
Je suis heureuse de voir que chacun d'entre eux est venu aussi pour nous encourager dans cette trajectoire de dialogue et de réconciliation. Pendant tout le long, ce sont en tout cas les encouragements que j'ai eus. Chacun d'entre eux a pu rappeler la place importante de la Nouvelle-Calédonie dans la région Pacifique. Ils n'étaient pas là pour nous dire quoi faire, car ils sont convaincus que la solution ne pourra venir que de nous, mais simplement s'informer auprès des différentes parties prenantes, puisqu'ils auront un rapport à rendre à leur retour, et surtout nous encourager dans cette voie d'unité, cette voie de paix et cette voie du dialogue.
Demain, ce sera le dernier jour de la mission du Forum des îles du Pacifique. Ses membres rencontreront tour à tour les autorités religieuses, le monde de l'enseignement, le comité Parole, Mémoire, Vérité, Réconciliation, les représentants des femmes, et ils termineront leur séjour par une visite d'observation des dommages causés lors de la crise. Rappelons que cette délégation est composée par du Premier ministre des îles Cook, Mark Brown, du Premier ministre des Tonga, Sioasi Sokaleni, du Premier ministre fidjien, Sitiveni Rambuka, du ministre des Affaires étrangères des îles Salomon, Peter Chanel Agovaka, et du secrétaire général du Forum, Baron Waka.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. La mission du Forum des îles du Pacifique vient-elle, selon vous, s'informer objectivement de la situation de la Calédonie ou craignez-vous un risque d'ingérence de la part de ces leaders régionaux ? Si vous pensez qu'il s'agit vraiment d'une mission de la part du Forum des îles du Pacifique, vous tapez 1. Si vous craignez un risque d'ingérence, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Philippe Blaise ne croit pas possible un accord global et il fustige l'UC et la CCAT. Le premier vice-président de la province sud et président du MRC était notre invité ce matin à 7h30 pour revenir sur le séminaire que son parti a réuni samedi. L'occasion d'évoquer les raisons de ce qui s'est passé le 13 mai.
C'est un coup d'État qui est organisé par la CCAT. On a des gens qui sont là à Bakou, dont Michael Forest, Omeyra Neslin, Malin Sakidia, Maria Lutovica Saliga. On sait que certains d'entre eux sont allés très loin dans les demandes qu'ils ont faites à l'Azerbaïdjan. Hein. On pense même qu'ils ont demandé des armes. Donc c'est très grave. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont décidé à un moment de sortir du processus de l'accord de Nouméa, de la voie démocratique, la Pacific Way, comme disent les gens du Forum du Pacifique, pour essayer de prendre le pouvoir par les armes. Et c'est très grave parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'ils n'ont pas renoncé à ça. Hein. Donc c'est l'UC, CCAT. Ils ont simplement été tenus en échec par l'État, par les forces de l'ordre et par la justice, que je remercie de nous avoir protégés en tant que citoyens français. Donc on est dans une situation un peu d'attentisme, instable, où on voit qu'on revient à la normale, mais qu'on a toujours cette menace de cette branche extrémiste du camp indépendantiste. Et qu'à côté de ça, et c'est ce qu'on a vu au plan S2R, on a des gens qui n'ont pas du tout adhéré à leur démarche, qui se préoccupent comme nous que la Calédonie ne sombre pas dans le chaos. Et ça montre avec qui on doit travailler et de qui on doit se méfier.
Aujourd'hui, on parle de la reprise des discussions sur l'avenir institutionnel. Mais pour Philippe Blaise, il faut s'interroger sur les interlocuteurs qui seront autour de la table.
Dans l'absolu, on doit parler avec tout le monde, mais on ne peut pas parler de la même façon avec des gens qui ont décidé de nous faire la guerre et qui n'y ont pas renoncé, et avec des gens qui nous respectent, c'est-à-dire qui ne veulent pas, comme nous, que la Nouvelle-Calédonie devienne Haïti. Parce que c'est ça le risque. Les conséquences du 13 mai, elles sont cataclysmiques. Ils ont cassé l'économie, ils ont brûlé 200 maisons, ils ont détruit 800 entreprises. On a plus d'un tiers de la main-d'œuvre du privé qui aujourd'hui est au chômage partiel. Nous sommes au bord du précipice. C'est pour ça qu'on demande l'aide de l'État, une aide exceptionnelle. Et il y a des gens qui s'en fichent, qui sont toujours dans la recherche du pouvoir, pour le pouvoir, quel que soit le prix à payer, y compris pour leur propre population. Et d'autres personnes qui ne partagent pas nos convictions, qui sont des indépendantistes. Hein. Enfin, Louis Mapou, c'est un indépendantiste virulent, il ne faut pas être naïf. Mais qui veulent que la Calédonie ressemble à un pays développé et pas à un pays du tiers-monde.
Philippe Blaise, qui a eu l'occasion de parler de tiers-mondisation de la Nouvelle-Calédonie comme conséquence de la violence institutionnelle. Il salue au passage la mission du Forum des îles du Pacifique, dont la venue peut permettre une meilleure prise de conscience de la situation de la Nouvelle-Calédonie, mais il ne croit pas vraiment à un accord global.
On fait le constat qu'on a des gens qui aujourd'hui nous ont déclaré la guerre et sont toujours dans cette logique du rapport de force et de la violence. Je ne vois pas comment on peut arriver à discuter avec ces gens-là et en sortir avec un accord global. Il faut être sérieux, on n'est pas en 88, on n'est pas en 98, nous sommes en 2024 et nous sortons d'une insurrection armée avec l'aide d'une puissance étrangère. Donc, il ne faut pas se tromper. Et ça, c'est un message que j'envoie à mes amis du camp loyaliste. N'essayons pas à tout prix de négocier un accord pour un accord. C'est-à-dire que le problème de la Calédonie aujourd'hui, ce n'est pas le concours Lépine du plus beau statut institutionnel. C'est la solution politique. La solution politique, c'est plus large que ça. Solution politique, c'est d'abord comment on assure la paix, l'ordre. Et là, on a besoin de la France, très clairement. Comment on assure que le processus démocratique redevient la norme avec la liberté de vote des gens, qu'on est dans le dialogue? Comment on assure que les prochaines élections se passent bien? Peut-être faudra-t-il être un peu moins ambitieux, on va peut-être pas tout résoudre d'ici les prochaines élections, mais en tout cas trouver au minimum un accord sur la tenue de ces élections et notamment la question du corps électoral.
Une interview de Philippe Blaise qui était donc notre invité ce matin que vous pouvez retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Et puis l'actualité politique, c'est aussi évidemment comme chaque lundi, la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, on la retrouve tout de suite.
La CCAT, création de l'Union calédonienne, a tout cassé. En quelques jours, elle a détruit la Nouvelle-Calédonie. Elle a effacé 30 ans de vivre ensemble, de développement et de prospérité. Elle a fait s'effondrer l'économie calédonienne dans des proportions que l'on n'a pas fini de mesurer. Elle a pratiqué au sens propre la politique de la terre brûlée et elle a laissé un champ de ruines sur lequel nous mettrons des années à reconstruire. Elle a mené une insurrection d'une violence inédite avec un incroyable déferlement de haine. Mais c'est fini. 5 mois après, on passe l'éponge, on tourne la page, on fait comme si rien ne s'était passé et on attend impatiemment de se retrouver autour de la table pour reprendre les discussions là où on les avait interrompues le 13 mai. Et de toute façon, c'est l'État le coupable. C'est lui qui n'a pas su maintenir l'ordre public, c'est lui qui n'a pas su mener intelligemment les discussions sur l'avenir. Alors il doit assumer ses responsabilités et il doit payer, au sens propre comme au sens figuré. C'est le discours hallucinant que l'on entend se développer dans une partie de la classe politique, et c'est singulièrement celui du leader de Calédonie Ensemble. À l'entendre, on efface tout, on oublie tout, et on recommence comme avant, puisque de toute façon, c'est la France qui doit payer. D'ailleurs, nous explique doctement Philippe Gomez, on doit discuter avec l'UC, voire avec la CCAT, il n'est pas question de les exclure, parce que si Jacques Lafleur avait raisonné comme ça en 1988, il n'y aurait jamais eu les accords de Matignon. Comparaison n'est pas raison et tout le monde le sait. 2024 n'est pas 1988. Pendant les événements des années 80, la Calédonie a connu une guerre civile et elle ne succédait pas à des accords signés en confiance pour créer une communauté de destin. Et ceux qui étaient sur le terrain étaient des militants politiques qui obéissaient à des consignes et à des mots d'ordre. Ce qui s'est passé le 13 mai est complètement différent. C'est une tentative des indépendantistes les plus radicaux de prendre par la force le pouvoir que leur refusaient les urnes. C'est une insurrection d'une violence incroyable, orchestrée, organisée, suscitée par des puissances étrangères. Et passé l'épisode de violence destructrice, les émeutiers pour la plupart ne sont pas sensibles aux mots d'ordre politique. Quand les leaders indépendantistes appellent à l'apaisement ou à la levée des barrages, ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas suivis. Le monstre qu'ils ont créé leur a en partie échappé. Faut-il pour autant les exonérer de toute responsabilité? Fallait-il emmener l'UC à Paris pour sommer l'État de donner 500 milliards CFP à la Nouvelle-Calédonie pour mettre en œuvre le plan quinquennal? Et faut-il discuter avec l'UC comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas préparé, encouragé et fomenté le cataclysme qui a frappé la Nouvelle-Calédonie? C'est ou de la naïveté ou de l'inconscience. Et c'est prendre le risque de voir se reproduire le même processus avec la menace permanente d'un retour à la violence dès qu'une disposition ne satisfait pas les indépendantistes. L'UC d'ailleurs se sent déjà en position de force et elle pose ses conditions, elle, pour une reprise des discussions. Sûr de son fait, Philippe Gomez tacle méchamment le président du gouvernement dont il fut jadis très proche en déclarant, et je cite, qu'après 5 mois de silence, Louis Mapou est sorti de son terrier. Le leader de Calédonie Ensemble, au moins, n'a pas à en sortir. Son CDD, qui se terminait en mai, s'est vu prolongé de 18 mois par la grâce du report des élections provinciales. Et il n'est jamais rentré dans son terrier.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir est à retrouver évidemment sur notre site internet rrb.nc. Elle est aussi à réécouter cet après-midi, juste après le flash de 16h. Dans l'actualité en Calédonie, 17 ouvrages locaux mis à l'honneur pour le Festival scolaire de littérature locale qui débute aujourd'hui. Pendant 3 semaines, près de 22 auteurs et illustrateurs du territoire vont aller à la rencontre des élèves du primaire et du secondaire, Charlotte Coulson.
Et ils ont commencé ce matin à l'école Jean Mermoud à Nouméa. Pendant un peu plus d'une semaine, les quelques 300 élèves pourront découvrir la littérature locale. Une démarche qui tient à cœur à la Maison du Livre qui organise l'événement. Alice Pierre en est la directrice.
La Maison du Livre, elle défend la filière locale du livre, donc évidemment c'est dans nos missions. Ce qui est aussi à noter, c'est que chaque enfant qui aura rencontré un auteur partira avec le livre de l'auteur qu'il aura rencontré. Donc c'est aussi une opération qui permet aux élèves de partir chez eux avec un livre. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas forcément de livre à la maison, c'est aussi une bonne occasion de distiller la lecture locale dans les foyers aussi, pour que les élèves puissent repartir avec chacun leur exemplaire de leur livre.
Et sur place, un drôle d'engin qui a attisé la curiosité des élèves. Une cabane littéraire mobile avec à l'intérieur plusieurs livres locaux comme Ronde et la Lune, Le Gros Tarot ou encore Mano et l'Ombre du Bagnant. Les enfants ont déjà pu tester les hamacs ce matin et sont séduits par leur découverte.
C'était super parce qu'on a pu servir, prendre des livres et avoir un petit temps pour lire.
En fait, c'est un petit temps pour lire, pour se détendre un peu. En fait, on se repose, du coup, c'est bien. Après, au moins, quand tu rentres en classe, t'es calme. Ça nous permet de découvrir d'autres livres. Il y a aussi des livres de Nouméa, par exemple, aussi, Océanique et tout.
C'est surtout de la lecture océanienne qu'il y a dans le livre. Notre maîtresse nous a expliqué qu'il n'y avait que des livres locaux. Voilà.
Mais c'est dommage parce qu'en fait, là, c'est dans la cour des moyens. Oui, mais nous, on aurait préféré l'avoir dans notre cours aussi.
Et une initiative soutenue par la province Sud qui finance en partie le projet. Le 18 octobre, ce sont les élèves du collège des Portes de Fer qui profiteront de ces structures et rencontreront les auteurs locaux.
À 11h47, une première pause dans ce journal et après avoir vu l'actualité en Calédonie, on va s'intéresser à l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Découvrez l'authenticité de la pizza artisanale cuite au feu de bois chez votre pizzeria Lantanas Pizza au Vallon d'Or, ouvert du mercredi au lundi de 17h30 à 20h30 et 21h les week-ends. Commandez vite au 41 54 69. Facebook Lantanas Pizza.
Opération hybride chez Toyota. Profitez de nos offres avec Toyota Nouméa, Toyota Kone et Toyota Lifu. La Toyota Yaris à partir de 33 900 francs par mois, entretien inclus. La Toyota Yaris Cross à partir de 39 900 francs par mois, entretien inclus. Le Toyota CHR à partir de 39 900 francs par mois, entretien inclus. La Toyota Corolla Cross à partir de 45 900 francs par mois, entretien inclus. Et le Toyota RAV4 à partir de 59 900 francs par mois, entretien inclus. Opération hybride, c'est aussi chez Toyota Occasion, avec des remises allant jusqu'à moins 500 000 francs. Toyota reste ouvert en continu de 7h30 à 17h. Alors passez nous voir, même à midi, voire conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Artisans de Nouvelle-Calédonie, c'est le moment de faire entendre votre voix. Dès maintenant, la Chambre de métiers et de l'artisanat vous invite à voter pour élire vos représentants pour les 5 ans à venir. 3 options simples pour voter. Par correspondance jusqu'au 25 octobre grâce aux documents reçus par la poste. Par voie électronique jusqu'au 25 octobre en vous connectant sur le site dédié. Ou encore en personne le 5 novembre en vous rendant dans l'un des 3 bureaux de vote à Nouméa, Kone ou Poindigné. N'oubliez pas votre pièce d'identité. Toutes les infos sur www.cma.nc ou par téléphone au 28 23 37. Artisans, pour défendre vos intérêts, votez.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
L'actualité en métropole avec ce drame à Rennes. Un enfant de 5 ans est entre la vie et la mort après que la voiture dans laquelle il circulait avec son père ait été prise pour cible par 4 hommes armés et cagoulés. L'enfant a été touché à la tête et à la joue et son pronostic vital est toujours engagé. C'est son père qui était sans aucun doute visé. Un homme connu des services de police, explique Frédéric Gallet, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police en Ille-et-Vilaine.
Le père de l'individu était connu pour un trafic de stupéfiants. Il est âgé de 29 ans. Les collègues qui sont sur le secteur le connaissent très bien. Il était connu pour être dans le trafic de stupéfiants, notamment sur le secteur Morpa.
Un drame qui pointe une fois de plus le trafic de drogue qui se développe à Rennes de façon inquiétante. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs demandé l'envoi sur place de renforts, notamment de la CR82. Antoine Bienveau pour Europe 1.
La situation sécuritaire pose question. À Rennes, hier matin, le RAID a par exemple dû intervenir après une fusillade en plein jour dans le quartier de Morpa. Une hausse de la violence qui inquiète Johan Léandry, secrétaire adjoint du syndicat UNSA Police dans la zone ouest.
On voit bien que la délinquance est exponentielle. On a des Rennais qui viennent nous voir parce qu'ils ont peur de cette délinquance qui est ultra violente. Effectivement, en Rennes, on arrive dans une situation où, comme Marseille, Grenoble ou d'autres grandes villes, hein, Rennes qui était reconnue pour une ville assez paisible, ça devient une ville avec le narcotrafic.
Et tous les policiers contactés par Europe 1 aujourd'hui réclament eux aussi des renforts face à une situation qu'ils jugent alarmante à Rennes.
Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'envole pour le Maroc la nuit prochaine pour nous, il accompagne le chef de l'État qui entame une visite officielle de 3 jours. Après des mois de tensions entre la France et le Maroc, il devrait être beaucoup question d'immigration dans ce voyage, mais aussi d'OQTF. Alors que la France a émis plusieurs milliers d'OQTF à l'encontre de ressortissants marocains, Rabat n'a accordé que 725 laissez-passer consulaires. En 2021, le taux d'expulsion vers le Maroc était de 2,4%, alors que dans le même temps, Paris a accordé 2500 visas à des ressortissants marocains. Emmanuel Macron, qui est interrogé par une trentaine de personnalités qui signent une tribune dans le journal du dimanche, tribune intitulée « Expliquez-nous, Monsieur le Président ». Les signataires, à l'image de Franck Tapiro, demandent des explications au chef de l'État sur la politique au Proche-Orient après les attentats du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.
Expliquez-nous, Monsieur le Président. Nous sommes des citoyens, nous ne comprenons pas. Expliquez-nous. On a écrit simplement toutes ces questions. Pourquoi la France n'a rien fait pendant 18 ans pour aider la FINUL? Pourquoi il n'y a qu'à Israël qu'on demande un cessez-le-feu? Est-ce que les autres ne peuvent pas leur demander un cessez-le-feu? Est-ce que la France, quand il était président en juillet 2017, a fait un cessez-le-feu sur Daesh, à Mossoul? On a fait des milliers de victimes, hommes, femmes, enfants, des civils. Est-ce qu'on a accordé un cessez-le-feu? Non. Quand on lutte contre des terroristes, on ne demande jamais, on n'accorde jamais un cessez-le-feu. Pourquoi Israël, qui est la cible des terroristes, à Gaza et au Liban, devrait lui faire un cessez-le-feu? Je crois qu'en fait, il est obsédé par Bibi Netanyahou. Je ne sais pas pourquoi. Il veut être le premier président à avoir fait reculer Bibi Netanyahou. Mais je peux vous dire, déjà qu'il s'est fait humilier face au président Poutine il y a quelques mois, je pense qu'il va subir une deuxième humiliation. Il ne fera pas reculer Bibi Netanyahou, qu'on aime Netanyahou ou pas, jamais il le fera reculer. Donc en fait, je ne comprends pas quelle partition il joue.
Et pendant ce temps, en Israël, un camion a percuté près d'une base militaire au nord de Tel Aviv. Il y a un mort et 34 blessés, dont plusieurs dans un état grave. Le chauffeur du camion, un arabe israélien, a été tué par les militaires alors qu'il descendait de son véhicule. Une enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit d'un accident ou s'il s'agit d'un acte terroriste. Israël qui poursuit sa lutte contre les mouvements terroristes et leur soutien, notamment l'Iran. Tsahal a d'ailleurs mené de nouvelles frappes aériennes en début de week-end contre ce qui pourrait être des installations nucléaires iraniennes. Frédéric Simon pour Europe 1.
Les autorités israéliennes restent discrètes sur certains des aspects des frappes menées dans la nuit de vendredi à samedi en Iran, d'après un site d'information saoudien. Un système perfectionné d'assemblage de missiles balistiques aurait été très durement atteint par les avions de chasse de Tsahal. Concernant le programme nucléaire de l'Iran, elle aurait été atteinte indirectement. Parmi les installations en partie détruites, une usine semi-secrète dédiée à la technologie d'assemblage d'ogives potentiellement nucléaires à l'arsenal de missiles balistiques du régime des Mollahs, arsenal qui aurait été considérablement réduit par les raids aériens.
Frédéric Simon pour Europe 1.